Controverse de la journée aux États-Unis et, pour une première fois, c'est pas Donald Trump, première fois depuis longtemps, Raphaël.
Depuis très longtemps, Paul. Ça implique non seulement pas le président des États-Unis, mais même pas un politicien en soi. Ça implique un mineur, un étudiant, David Hogg, dont la caractéristique la plus connue, évidemment, est le fait que c'est un finissant de l'école Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, et qui est devenu, je te dirais, un petit peu, tu pardonneras la comparaison, mais un petit peu le Gabriel Nadeau-Dubois du mouvement pour le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je tire le parallèle? Parce que pour les gens qui appuient le mouvement, c'est vraiment rendu une espèce de figure de héros, là. C'est un des visages principaux de ce mouvement-là. Et de l'autre côté, pour les gens qui sont contre ce mouvement-là, c'est un petit peu rendu une tête de Turc, là. On se plaît à l'adorer ou à le détester. Et juste pour te donner une petite idée du pourquoi, quand il y a eu la marche, la fameuse marche à Washington le week-end dernier, David Hogg, donc l'étudiant en question, de 17 ans, a présenté un écusson sur lequel il était écrit 1,05$, donc 1,05$, et s'était mis en juxtaposition avec la photo de Marco Rubio, le sénateur de la Floride. Et le raisonnement derrière ça était que ça représentait le montant d'argent, et là, c'est une citation presque exacte, le montant d'argent qu'avait pris Marco Rubio pour la vie de chaque étudiant floridien. Pourquoi? Parce que 1,05$, bien, c'était la somme totale donnée au fil de la carrière politique de Marco Rubio par la NRA, divisé par le nombre d'élèves inscrits dans les écoles publiques et privées de la Floride. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est le genre de rhétorique assez explosive, merci, qui va faire réagir des deux côtés. Donc, tu as eu plusieurs réactions de personnalités conservatrices aux États-Unis, dont une animatrice de la chaîne Fox News, très connue aux États-Unis, Laura Ingraham. Et Laura Ingraham est sortie sur son compte Twitter pour ridiculiser David Hogg, qui venait d'être refusé dans certaines universités américaines où il avait appliqué. David Hogg, loin de se laisser faire, a répliqué sur Twitter et a appelé à un boycott par les publicitaires de l'émission de Laura Ingraham. Et devine quoi, Paul? Ça, en bon français, ça a pogné. Et là, tu as plusieurs gros joueurs, incluant Home Depot, incluant Nestlé, qui commanditaient l'émission de Laura Ingraham, qui ont annoncé au courant des dernières heures, on se retire.
Oh, c'est gros, ça.
C'est gros. Donc, écoute, c'est pas un mouvement qui s'effrène. Pour ceux qui pensaient que ça allait durer une couple d'heures, une couple de jours, il y a vraiment de l'énergie derrière ce mouvement-là. On en a un bel exemple. Après tout ça, donc, Laura Ingraham qui s'est publiquement excusée à David Hogg. David Hogg, 17 ans, a refusé publiquement les excuses de
Laura
Ingraham.
Exact. Et bon, ben alors, wow. Ça va être à suivre. Hein.
En effet.
Si vous aimez le café, écoutez ceci.
Fascinant, Paul. C'est une bataille à la fois politique et juridique. Je peux dire que je suis depuis quelque temps. Et là, il y a une décision majeure qui est tombée aujourd'hui. Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles qui a jugé que les coffee shops, donc vous vendez du café, les manufacturiers de café, vont devoir, évidemment, si ce jugement-là n'est pas éventuellement renversé en appel, là, mais vont devoir afficher sur leurs produits un avertissement de danger de cancer, de risque de cancer. Pourquoi? Parce que le café contient un composé chimique qui s'appelle l'acrymalide, qui serait cancérigène. Et ce qui est fascinant dans cette bataille-là, c'est que ça oppose depuis des années un petit ONG, un organisme non gouvernemental à but non lucratif, contre l'industrie, les gros joueurs du monde du café, à commencer par les Starbucks de ce monde. Donc, c'est vraiment un combat typique là, de David contre Goliath. Et dans ce cas-ci, le petit joueur est en train de gagner. Donc, une première grosse victoire en cours. Et évidemment, c'est arrivé en Californie. Donc, si ce jugement-là, encore une fois, est confirmé et n'est pas éventuellement renversé en appel, ça s'appliquerait à l'ensemble de la Californie, qui est évidemment le plus gros État américain. Ce n'est pas une mince affaire, Paul. Il y en a plusieurs qui vont voir là-dedans, je te dirais, une espèce de victoire de la santé publique contre les intérêts corporatifs. Personnellement, je te dirais que c'est davantage une victoire pour la cohérence, Paul. Si on force certains manufacturiers à afficher les risques sur leurs produits, il faut que ça soit pour tout le monde.
Mais j'ai hâte de voir si ça va s'étendre à la grandeur des États-Unis et éventuellement au Canada.
Et ce qui va être également extrêmement fascinant de surveiller, Paul, c'est que la Californie fait partie de la poignée d'États qui a légalisé le cannabis à des fins récréatives. Oui. Et le cannabis est rempli de substances toxiques et cancérigènes.
Aussi.
Et donc, si on applique ça au café, on s'entend-tu que juste de façon logique, ça va
si
devoir.
Si on l'applique à la cigarette,
exactement.
Il faudrait peut-être y penser pour la cigarette de marijuana.
Et voilà.
Encore une fois, Hillary Clinton. J'ai dit encore une fois Hillary Clinton je ne sais même pas qu'est-ce que...
Non, mais écoute, je ne sais même pas quoi rajouter d'autre à part l'extrait audio qu'on va écouter à l'instant.
I was really struck by How people said that to me, go away, go away. They never said that to any man who was not elected.
Bon, ça, Paul, c'est encore une fois la perdante. Je vais remettre l'emphase, la perdante de l'élection présidentielle de novembre 2016. Ça fait un an et demi, Paul. Et ça, c'est Hillary Clinton, il y a à peine quelques heures, à l'université Rutgers au New Jersey, qui était en train de se plaindre, de se lamenter une fois de plus publiquement, que plusieurs voix, incluant des voix au sein de son propre parti, lui disaient « Madame Clinton, s'il vous plaît, scramble, débarrassez, c'est assez, là, arrêtez de faire la victime sur la scène publique depuis un an et demi. » Et la défense de Mme Clinton, c'est de dire « On n'aurait jamais dit ça à un homme. »
Oui. Elle est partie là-dessus. Et demain matin, réplique sur Twitter.
De Donald Trump.
De POTUS. POTUS étant President of the U.S.
Au sujet de Crooked Hillary.
Exact. De Crooked Hillary. Finalement, en terminant, une note plus légère. Dennis Rodman, l'ami personnel de Kim Jong-un, se réjouit de la rencontre, de la future rencontre entre le président des États-Unis et Donald Trump et Kim Jong-un.
En effet, Paul. Et là, je te parlais dans le tour de table du tweet de la journée, sinon le tweet de la semaine. J'ai vu ça ce matin. Évidemment, j'ai éclaté de rire. Je te cite le tweet de Dennis Rodman, pardon, donc ex-vedette extrêmement colorée pour le moins de la NBA et ami personnel de Kim Jong-un et apparemment Donald Trump. Donc, il dit dans ce tweet, « Voici ce que je souhaite voir après que mes deux amis, donc évidemment Kim Jong-un et Donald Trump, se soient rencontrés le mois prochain. » Hashtag peace, hashtag love, hashtag diplomatie. Et tu as une photo, évidemment, qui a été altérée, qui a été photoshopée, de Kim Jong-un portant la casquette rouge de Donald Trump, Make America Great Again.
Exactement. Comme si le leader nord-coréen épousait le même thème.
Exactement.
Que l'actuel POTUS.
Mais sais-tu quoi, Paul? Je suis même pas prêt à dire que c'est impossible.
C'est possible.
Peut-être qu'on verra une telle photo dans un mois et demi ou deux mois.
On verra, ou c'est peut-être le contraire. C'est peut-être le président américain qui...
changera sa coupe de cheveux exactement. Pour avoir la coupe Kim Jong-un.
Bravo. Et bon week-end de Pâques, Raphaël Jacob.
Joyeuse Pâques, Paul.